ce qui se passe encore. Voilà, essai micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors ça va, très bien. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu en Jésus, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous toutes et tous ici à l'Oratoire du Louvre ce matin pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble. Bienvenue aux enfants de l'éducation biblique. Vous allez vivre aujourd'hui une très belle journée avec les psaumes. Et oui, nous allons parler des psaumes dans notre séance d'aujourd'hui pour dire comment l'on écrit l'amour de Dieu, l'amour qu'on a pour lui, mais aussi l'amour qu'il a pour nous. Alors vous découvrirez tout ça dans le détail avec vos moniteurs, monitrices qui sont là avec nous et qui ont préparé de façon très belle cette belle séance. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble malgré l'éloignement et nous saluons particulièrement toutes les personnes qui n'auraient pas pu venir pour des raisons de santé. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, beaucoup de parents d'éducation biblique sont là. Je tiens à les saluer particulièrement et à les remercier de leur fidélité autour des enfants pour qu'ils puissent venir à l'église et qu'ils puissent apprendre avec nous toutes les richesses de ce patrimoine extraordinaire qui se trouve dans la Bible et qui leur permettra sans doute, sans nul doute, de grandir peut-être un peu autrement avec des mots qui résonnent en eux et qui puissent faire évoluer leurs pensées et leur cheminement de vie. Nous allons maintenant commencer ce temps de culte. Les enfants, vous avez votre psautier français, c'est lui qui va vous accompagner tout le début de ce culte avec la petite liturgie qui est au début. Quand vous chantez un répond, parce que je vous observe, vous savez, pendant les cultes et je vois parfois la difficulté de manier tous ces livres. Alors posez le louange et prière à côté de vous, par terre, c'est pas grave, il en a vu d'autres, voilà. Et puis prenez votre psautier, ouvrez la petite liturgie et quand vous l'ouvrez et que vous chantez un répond, ne refermez pas complètement le livre, gardez-le ouvert et comme ça vous suivez la liturgie sans avoir à rechercher à chaque fois. D'accord ? Ce sera beaucoup plus facile pour vous, vous verrez. Alors je vous invite, vous aussi les grands, à prendre votre liturgie et à prendre donc dans le psautier français le premier répond avec cet extrait du psaume 8. Et bien sûr, aujourd'hui, nous louons Dieu avec un psaume tout petit que vous pourriez apprendre par cœur, les enfants. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Et je vous invite à louer l'Éternel avec le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4. Alors là, vous allez dans le psautier, vous cherchez le 92 en entier, que vous connaissez bien d'ailleurs.
Thank you.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. On a des psaumes parfois d'une actualité étonnante. Je voulais saluer particulièrement le chœur de l'oratoire qui est ce matin avec nous. Vous avez entendu cette entrée dans le culte extraordinaire, magistral, et vous avez entendu le soutien de leur chant à la tribune avec David Cassan qui est à l'orgue ce matin, avec Alexandre qui dirige le chœur. Nous écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire et le courage de faire. Vous savez, les enfants, en ce moment, vous avez sûrement beaucoup de petites copines et de petits copains qui sont catholiques. Et peut-être que vos parents, un de vos parents est catholique. Et dans la tradition catholique, avant Pâques, on se prépare à la grande fête avec le carême. Et le carême, c'est le moment dans cette confession où on jeûne, c'est-à-dire qu'on fait attention à réduire ses appétits et manger peu et des choses très simples pour se souvenir que l'on se prépare à une grande fête et se préparer dans son cœur à recevoir la joie de cette fête. Ce jeûne, il se fait dans beaucoup de traditions et dans la religion de Jésus, il y avait aussi des gens qui jeûnaient et Jésus sans doute a jeûné lui aussi parce qu'il était dans le judaïsme et que ça fait partie des traditions aussi du judaïsme. Seulement, tout dépend dans quel esprit on le fait. Écoutons donc ce que Dieu dit par l'intermédiaire d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de lien contraignant. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Vous voyez que le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais c'est surtout regarder son prochain, celui ou celle qui vit à côté de nous, et être dans une vraie solidarité avec chacun. Je vous invite à chanter ensemble. Continuer notre chemin, nous pouvons regarder ce qui pourrait nous séparer de l'Éternel et pouvoir du coup reprendre lien avec lui si nous nous sentons séparés. Et c'est André Gide qui écrit cette prière, cette méditation qui nous rapproche de vous les enfants. Nous nous présentons donc devant Dieu avec cette prière. Seigneur, ce n'est pas parce que l'on m'a dit que vous étiez le Fils de Dieu que j'écoute votre parole, mais votre parole est belle au-dessus de toute parole, et c'est à cela que je reconnais que vous êtes le Fils de Dieu. Par quelle absurde modestie et quelle humilité, quelle honte ai-je jusqu'aujourd'hui différé d'écrire ce qui depuis tant d'années s'impatiente en moi?
J'attendais toujours plus de sagesse, de lecture, de connaissance, comme si la sagesse des hommes n'était pas folie devant Dieu. Seigneur, je viens à vous comme un enfant, comme l'enfant que vous voulez que je devienne, comme l'enfant que devient celui qui s'abandonne à vous. Je résigne tout de ce qui faisait mon orgueil et qui près de vous ferait ma honte. J'écoute et vous soumets mon cœur. Et je vous invite à entendre cette parole de pardon, cette parole de salut que l'on trouve dans les odes de Salomon, dans la tradition de Saint Éphrem. Et nous avons donc ces magnifiques odes écrites en syriaque. Et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. Un ruisseau a jailli, il est devenu un fleuve grand et large. Il a tout entraîné, il a broyé, il a tout emporté au temple. Les barrages des hommes n'ont pu l'arrêter, ni l'art des constructeurs de digues. Il a submergé toute la face de la terre et il a inondé toute chose. Tous les assoiffés de la terre ont bu. Et la soif fut étanchée, apaisée. C'est du Très-Haut que fut donné le breuvage, à qui ces eaux furent confiées. Ils ont désaltéré les lèvres desséchées, soutenu la volonté paralysée. Les âmes sur le point de sortir, ils les ont empêchées de mourir. Les membres défaillants, ils les ont restaurés, redressés. Ils ont donné force à leur marche et lumière à leurs yeux, car tous les ont reconnus dans le Seigneur, et par l'eau vivante et éternelle, ils ont vécu. Alléluia. Écoutons une confession de foi possible parmi tellement d'autres dans vos cœurs à vous. Je crois que tu es le Dieu un, le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois en ton amour unique pour tous les êtres humains. Je crois que nos religions sont nos langues pour dire ta grandeur et ta gloire. Et je crois que si j'étais née dans un autre temps, en d'autres lieux, j'aurais une autre langue pour dire ma foi en toi, mais je crois que tu serais toujours Dieu pour moi. Je crois en une amitié entre les croyants toujours possible, en un dialogue entre les chercheurs de vérité toujours possible, en une paix entre les religions toujours possible. Je crois en une liberté religieuse toujours possible, en une religion utile pour le monde, en une critique théologique bénéfique pour tous. Mais je crois qu'il n'est pas possible d'y arriver sans l'amour du prochain que tu inspires à toutes et tous et qui reste si difficile à vivre réellement. J'ai foi en la bonne volonté de celles et ceux qui sincèrement cherchent à dire l'indisciple de ta présence à leur côté. Je crois en Jésus qui est un frère pour moi et qui est un prophète pour d'autres et le Christ encore pour d'autres. Et je n'affirmerai pas que j'ai raison contre eux, car ni eux ni moi ne pouvons prouver que nous avons raison quand nous parlons de toi. Mais toujours, j'affirmerai que nous avons raison de chercher ensemble, même dans des langues différentes de foi, pour trouver ensemble un chemin vers toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et je lirai aujourd'hui un psaume, évidemment, pour que nous soyons en lien avec cette belle journée que vivent les enfants ici. Et c'est le psaume 131 que je vais lire. Et je le lirai dans la traduction que j'ai trouvé bon de refaire à partir de ce que l'hébreu dit. Adonai, mon cœur n'est pas orgueilleux, mes regards ne sont pas élevés, je n'ai marché dans des choses ni trop grandes ni trop merveilleuses pour moi, au contraire, je suis tranquille et silencieuse. Mon être est comme un rassasié sur sa mère. Mon être est comme un rassasié sur moi. Israël est en attente vers Adonai, dès maintenant et jusqu'à toujours. Et nous allons chanter ensemble, les enfants. Vous avez reçu une feuille avec Evenu Shalom, mais peut-être que vous le connaissez par cœur. Il y a des scouts parmi les enfants ici, voilà. Donc vous connaissez sans doute ce chant-là. Et nous allons le chanter tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Alors vous avez remarqué que c'est une variante, intéressant, mais vous avez tous chanté quand même. Et donc, ici, il y a plein de gens qui ont fait du scoutisme, j'en suis sûre. Levez la main. Mais je me trompe tant que ça? Ah oui, voilà, ils sont là, les scouts, en fait. Alors, vous avez les paroles en dessous que vous connaissez par cœur et que vous avez chanté au scoutisme. Hein? Non, c'est pas ça, Gustave? Oui, on va y arriver, hein. Alors, on va le reprendre façon protestante. Alors, le cœur est d'accord? Oui, c'est bon? Alors, vous prenez les petites paroles qui sont en dessous. C'est bon, les enfants? Vous avez vu? Alors, on y va. Et peut nous chanter. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, les enfants, vous allez pouvoir rejoindre votre mini-culte et pouvoir méditer les psaumes avec vos monitrices qui vous accompagnent à la maison presbytérale. Alors, prenez vos psautiers, prenez votre feuille et vos affaires. Voilà les enfants, allez. J'ose pas dire yallah, mais on va le dire quand même. Et je vous invite à la prière. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole,
qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions les psaumes où résonnent les cris de ce monde, cris de joie ou de douleur, chants de reconnaissance ou d'espérance. Amen. Je vous ai proposé tout à l'heure une version du texte du psaume 131. En voici une autre, « Chant des montées » de David. « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi, loin de là. » J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. C'est assez différent de ce qu'on trouve dans les mots en hébreu quand ils ne sont pas traduits et revus par toute une tradition chrétienne. Extraordinaire expérience que celle du copiste qui, au milieu de la nuit, recopie le même chant, d'abord en hébreu pour comprendre la graphie du texte et écouter la musique de la langue, et puis en français pour changer d'imaginaire et entendre le même chant résonner en soi. Déroutant travail de traduction du traducteur qui, tel un passeur de mots, traverse le lac immense de ce qui sépare deux cultures, deux langues, deux terres habitées, de la même humanité, et pourtant si différentes d'une terre à l'autre. Sur les deux rives, deux chants retentissent, semblables et pourtant différents, universels et pourtant singuliers. L'auteur est un roi, son lecteur un mendiant cherchant l'aumône d'une signification. En montant vers le sanctuaire, deux pèlerins chantent le même chant, mais des siècles les séparent. L'enfant sevré de la langue française a inspiré la paix de l'âme à des générations de croyants. Ainsi, comme me le faisait remarquer un jeune paroissien, le pasteur André Nouma Bertrand, pasteur à l'oratoire, écrivait dans sa prédication en 1946 « J'ai l'âme calme et tranquille. Combien de chrétiens, en lisant cette parole, ont dû laisser retomber le livre sur leurs genoux et baisser la tête, avec peut-être des larmes dans leurs yeux, parce que ces mots exprimaient avec une précision pénétrante ce qu'ils auraient voulu posséder et qu'ils ne possédaient pas. » Ce trésor d'une âme calme et paisible apparaît aux hommes de notre génération comme un paradis perdu. Et il faut croire que de tout temps, il a été rare parmi les hommes. il leur est apparu comme un de ces privilèges réservés aux enfants, et que le temps, la vie, nous ravissent inexorablement. Je suis comme un petit enfant aux côtés de sa mère, dit le psalmiste, un tout petit qui se tient là, tout près, qui ne quitte pas le contact des bras maternels, un enfant sevré, disent nos traductions, non pas un nourrisson qui est encore sur les genoux de sa mère, qui reste là parce qu'il ne peut pas faire autrement, et qui reste là où on le met, comme une chose, une petite chose exquise, mais qui n'est pas encore une personne, dont la paix, la tranquillité, n'est pas autre chose que le reflet d'un organisme bien portant, mais un enfant déjà debout sur ses pieds qui reste là, contre sa mère, parce que là est la tranquillité et la paix. Voilà l'image de l'enfant sevré. Si cette belle image de l'enfant sevré auprès de sa mère a ravi le cœur de nombre de lecteurs de nos traductions du psaume 131, la langue de nos ancêtres dans la foi nous permet de nous déplacer un peu et de constater une difficulté avec le sens du mot traduit par sevré. L'hébreu dit aussi comme possibilité rassasié. Que choisir alors ? Un enfant sevré n'a plus besoin du sein maternel, mais un enfant rassasié s'endort dessus. Et c'est là la petite différence qui nous amène vers une tendresse divine que notre culture a du mal à mesurer, tant Dieu est devenu lointain et sévère dans notre imaginaire occidental. Retraversons le lac qui sépare nos cultures de celles des anciens Hébreux. Sur la rive du Français, on trouve un être qui semble vouloir prouver qu'il n'a commis ni péché d'orgueil, ni attitude arrogante. Le texte du psaume est très défensif. Il faut qu'il impose le calme et le silence à son âme, comme une ascèse qui empêcherait ses penchants naturels de faire verser son cœur dans l'hubris. L'âme est comme un enfant sevré et sage donc, et ne demandant rien parce que maintenant il est assez grand pour se nourrir autrement et marcher avec plus d'autonomie sur ses deux jambes, ce qui n'avait pas échappé au pasteur Bertrand dans sa prédication de 1946. L'enfant sevré est un grand garçon, raisonnable, qui se tient tranquille près de sa mère. En revanche, sur la rive de l'Hébreu, le poème, construit en miroir, s'articule autour d'un contraire. D'un côté, le psalmiste chante modestement, comme une confidence, sa condition humaine. Il ne cherche pas à se faire plus merveilleux qu'il n'est devant Dieu. Et d'un autre côté, après une rupture qui dit « au contraire », vient l'image inversée d'un cœur qui pourrait avoir besoin de chercher plus haut et plus grand que lui-même. L'image d'un être déjà plein et rassasié qui demeure confiant sur sa mère et de façon étonnante, déjà rassasié sur lui-même. Puis vient un constat, Israël est en attente de Dieu. Sans doute peut-on penser que ce n'est pas si loin, mais l'ambiance de foi n'est pas la même sur une rive ou l'autre. Le psalmiste choisit de parler du souffle de vie qui l'anime, ce qui est traduit par âme en français, mais par nefesh en hébreu. Et le nefesh des Hébreux est corporel, presque animal. Il est le souffle qui fait que vous êtes vivant corporellement aussi. Dire que cette chose vitale est rassasiée, comme je cite littéralement, « celui qui est rassasié sur sa mère », c'est dire que la tranquillité de la vie humaine est entière et pas seulement spirituelle. Et le plus troublant peut-être est la phrase qui suit « mon être est comme un rassasié sur moi ». Le psalmiste est en paix avec lui-même, sans rien pour le diviser, tout entier dans la confiance. Sa vie repose en elle-même dans le calme. On retrouve ici la paix qui a traversé les siècles par ce psaume, mais ce n'est pas la même histoire divine. Ici, le roi David ne dit pas comment Dieu, l'éducateur, l'a redressé pour qu'il soit enfin calme et raisonnable, Il dit au contraire, je suis tranquille et silencieux. Contrairement à Israël qui est en attente de Dieu, David, calme et silencieux, est rassasié, plein et sans autre attente. Il a reçu l'onction de l'Éternel, sa vie tout entière est nourrie de cette bénédiction et de cette élection. Mais tout le peuple de pèlerins qui chante son chant aspire à la même tranquillité et le même silence intérieur qui fait que tout appétit est calmé et que l'être se repose comme ces enfants qui dorment sur le sein d'une mère allaitante et que rien ne peut troubler. Dans le poème hébreu, le mot « enfant » n'apparaît pas, comme pour dire que, quel que soit l'âge, l'être rassasié est toujours le même de la naissance à la mort. Il est un être en paix. Point d'ascèse ici, point de restriction, point de privation. Pas d'appétit fautif à corriger, car enfin qui refuserait la nourriture propre à rassasier un tout petit ? Dieu sait que nous en avons besoin. Ici, point de faute, point de péché, mais une solidarité entre l'humain et Dieu. Dieu pourvoit et l'humain trouve son silence intérieur. Plus besoin de demander, de crier, de supplier. Dieu a donné en abondance. Cette image de celui qui est rassasié est une image maternelle de Dieu pour ses enfants. Cette mère qui nourrit avant même que nous ayons faim, parce qu'elle nous connaît comme si elle nous avait fait, comme on dit. C'est un Dieu qui pourvoit nos besoins de telle sorte que si nous sommes convaincus de son assistance, nous n'irons pas chercher notre nourriture ailleurs et nous n'aurons plus peur du manque et de la faim. Cette image de la foi plus organique et plus vital que les méandres de l'âme, permet de reconsidérer la relation de l'humain à Dieu et de sortir de la position de mineur qui devrait apprendre à être sage. Ici, Dieu donne la vie et pourvoit aux besoins humains sans autre raison que la fragilité de l'humanité même. Comme dans le sermon que Jésus donne sur la montagne et où il dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Au moment de monter vers le sanctuaire, le chant de David retentit comme une assurance que rien ne peut susciter l'abandon de l'Éternel envers ceux dont il a la charge. S'en remettre à Dieu, comme un nourrisson, l'image est lourde de conséquences, car ici, l'enfant ne se tient pas encore sur ses deux jambes, il n'est pas encore l'enfant sevré. Cela veut dire que la vie tout entière est replacée en l'Éternel. L'existence devient alors reconnaissance envers ce Dieu qui pourvoit pour que nous vivions. Et la vie corporelle est prise en compte aussi bien que la vie spirituelle. D'ailleurs, pour un hébreu du temps de ce psaume, il n'y a pas deux façons d'être en nous, mais une seule. Nous sommes un corps dans lequel Dieu pourvoit. Alors, étant sur la rive du français, dans les terres occidentales, travaillée par l'idée de péché et de sacrifice, je suis tentée de traverser vers l'autre rive, et je vais rejoindre ce Dieu de la vie en qui je puis avoir confiance, pas le Dieu de la foi, de la loi, pardon, ni même le Dieu de l'amour, mais le Dieu de la vie tout entière. Trop souvent transformé en père la morale, trop souvent éthéré dans les sphères spirituelles inaccessibles, l'Éternel est parfois devenu, dans nos théologies, un personnage plus ou moins pervers qui scruterait notre vie pour nous prendre en défaut. Mais sur l'autre rive, là où le psalmiste monte vers celui qui lui donne la vie pleine et entière, la peur a disparu. Je puis être tranquille et silencieuse, je ne manquerai de rien. Moi, ce corps mortel qui doit parfois marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, dit le psaume 23. Ce n'est pas seulement mon âme dont l'Éternel prend soin, mais ma vie tout entière, avec ses plaisirs et ses peines, ses appétits et ses dégoûts, ses blessures et ses cicatrices, ses traumatismes et ses moments de grâce, ses forces et ses fragilités. La nef de l'Église, à travers les siècles, a oublié et parfois a voulu consciemment oublier le Dieu chanté sur l'autre rive. Elle a voulu un Dieu d'amour auquel ses enfants devraient tout, certes, mais qui, ce faisant, aurait tous les droits sur eux. Un parent assez autoritaire pour que quelques intermédiaires cléricaux puissent se jouir du pouvoir qu'ils auraient sur ses enfants. Mais ce jeu déculpabilisation n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la peur. Il est possible de partir et retraverser la mer pour nous libérer de ce fardeau qu'est devenu ce Père qui nous voudrait du bien seulement pour lui. Dieu nous veut vivants pour nous-mêmes. C'est la foi qui est décrite dans ce psaume merveilleux, où la fin se tait et où tout un peuple est invité à faire confiance et à attendre la vie de son Dieu. Le contraire de la foi, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute, non. C'est la peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est cette peur que celui qui prêchait au milieu des lacs dans une barque est venu nous libérer. Il se tient au milieu, entre deux rives, et laisse le travail de traduction des théologies se faire toujours à nouveau. Quand nous ouvrons les yeux sur notre monde, nous voyons ceux qui ont faim de justice, de paix et de sécurité. Tous ces êtres blessés qui voudraient pouvoir cesser d'avoir peur du lendemain, ne plus s'inquiéter enfin. Nous voyons les ogres de notre temps qui ressemblent tellement à ceux de l'époque du prophète que le prophète Amos dénonçait déjà en son temps par ces mots. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez le déshérité du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée que nous vendions le grain? Quand le sabbat finira-t-il que nous ouvrions les sacs de blé? Nous diminuerons la quantité et nous augmenterons le prix. Nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Et nous vendrons même le déchet du blé. Alors, nous devons continuer de refuser les ogres qui ont toujours faim, peut-être parce qu'ils n'ont personne pour pourvoir à leurs besoins essentiels. Et si le monde est en attente de cette vie qui rassasie, nous devons croire que tout notre être, que ce monde peut changer. Et nous devons y travailler jour après jour, avec confiance, avec la confiance des êtres tranquilles et silencieux avec Dieu. Aucune peur ne doit nous ébranler. Amen. Merci David, et j'ai entendu les ogres, mais je n'ai même pas eu peur. Je vous invite à prendre le cantique 400. Et ce sont les strophes 1, 2 et 3.
Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais inviter Stéphane à venir me rejoindre pour les annonces. Stéphane qui fait partie du conseil presbytéral. Et j'avais compris qu'il y avait des scouts qui devaient être là ce matin, mais bon.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous si nombreux aujourd'hui. Avant de passer aux annonces de la semaine, nous vous invitons toutes et tous à rester nombreux à l'issue de ce culte pour accueillir, écouter et débattre avec le professeur Pierre Gisel qui viendra aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage, Les monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Je ne sais pas si Béatrice, tu veux dire un petit mot ?
Alors, peut-être dire que hier nous avions déjà le brunch libéral à 10h le samedi matin, une fois par mois vous pouvez venir vraiment dès que vous pouvez, n'hésitez pas à venir à ces séances et hier nous avions déjà le plaisir d'être avec Pierre Gisel sur un thème qui allait aussi dans le même sens avec la question du dialogue interreligieux et de ses évolutions possibles, de la façon de les mener ces dialogues. Et donc nous avons déjà beaucoup parlé de cette question, mais en tout cas là c'est un autre livre encore que celui qui m'avait servi de préparer la séance d'hier et vous allez voir, il est à la librairie, vous allez pouvoir vous en procurer si vous le souhaitez, un livre passionnant qui va vous donner vraiment beaucoup d'indications, de choses essentielles à connaître sur ce qu'on appelle ces trois monothéismes, comme si il n'y en avait que trois, et vous découvrirez tout ça dans le livre, et donc on en débat tout à l'heure, j'aurai le plaisir de présenter ce beau livre. Voilà.
Merci Béatrice. Alors au programme de cette semaine, nous aurons lundi et mardi les traditionnels cours de grec biblique qui se tiendront à la maison presbytérale de 19h à 20h30. Le lundi matin, le groupe artiste des protestants se retrouvera à la maison presbytérale. Vous retrouverez bien évidemment tous les détails sur le site de l'oratoire. Mercredi 9 avril, le groupe Jeune Oratoire se retrouvera à partir de 19h ici en notre temple et entrera à partir de 19h dans le débat sur le thème « Le sens de la croix ». C'est eux qui choisissent, d'accord. À l'issue de ce temps de débat, le groupe se retrouvera à la maison presbytérale pour de joyeuses agapes. Voilà. Je pense que j'ai couvert toutes les annonces de la semaine.
Oui, alors pour la semaine, oui. Alors je précise que oui, ce sont les jeunes eux-mêmes dans leur groupe qui préparent les thèmes et qui les choisissent. Et j'ai trouvé très intéressant qu'ils choisissent ce thème précisément dans ce moment où nous sommes en route vers la semaine sainte. Et cette semaine pascale sera ici très très riche. On aura d'abord le jeudi saint au foyer de l'âme, donc on va vous donner toutes ces indications-là, le culte au foyer de l'âme le jeudi soir, le vendredi soir ici avec David Cassan, nous allons avoir la joie même si c'est très méditatif ce soir-là, de retrouver la passion selon Jean, selon l'évangile de Jean, avec Dominique Imbert, donc pasteur au foyer de l'âme, qui va prêcher à ce moment-là. Et puis ensuite, le samedi soir, ça c'est une nouveauté, il y aura un concert spirituel avec l'ensemble La Petite Suite, qui est un ensemble absolument merveilleux et qui va pouvoir chanter ici une cantate de Bach et d'autres morceaux magnifiques. Et donc, et puis bien sûr, le dimanche, le culte de Pâques. Voilà. Et cette année, Pâques est la fête commune pour nos religions toutes différentes et toutes ensemble. Et donc, c'est une année très particulière. Voilà. Donc, merci d'être là pour toute cette semaine pascale. Voilà.
Merci, Béatrice. Donc, nous... Pardon.
Peut-être donner la parole à la demoiselle qui est là. Voilà. Alors, on a retrouvé une scout.
Bonjour à tous. Justement, nous sommes les scouts de l'oratoire. Et à la sortie du temple, nous organisons une vente de gâteaux. Voilà, pour ceux qui voulaient...
Très bien. Alors, vous allez acheter votre gâteau, vous revenez, vous passez à la librairie, vous achetez votre livre de Pierre Gisèle, puis ensuite, vous venez à la présentation de livre. Vous voyez, c'est très simple, en fait. Voilà.
Et avant tout ça, nous allons rentrer dans le moment du don, que nous souhaitons évidemment joyeux et généreux. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite un très, très, très beau dimanche, ensoleillé donc, et n'oubliez pas de rester avec nous. Vous aurez toute l'après-midi après pour profiter de ce beau soleil. Merci et beau dimanche.
Merci. Je vous invite à la prière. Que la paix soit avec eux, avec tous ces peuples soumis à la guerre et à la rage de pays voisins, tous ceux qui sont en proie au fanatisme religieux, tous ceux qui sont en proie à une idéologie qui les accable et les contraint au silence. Que la paix soit avec eux. Que la paix soit avec eux dans leur cœur pour qu'ils tiennent, qu'ils résistent à cette force terrible qu'est la privation de liberté et la violence qui provoque la mort partout où elle passe. Que la paix soit avec nous, ici dans nos pays en paix, où nous avons tant de mal à jouir de cette paix pour pouvoir entamer des dialogues fructueux, dans nos pays où nous prenons comme un détail la possibilité d'être libre dans le débat, d'avoir une justice indépendante, d'avoir des institutions qui nous préservent du mal du plus tyrannique. Que la paix soit avec nous, ancrée en nous, et que nous puissions nous aussi revenir au calme pour pouvoir construire demain et aider les pays où la paix ne règne pas. Que la paix soit avec toutes celles et ceux qui luttent pour sauvegarder leur vie dans des moments d'épreuves terribles, qui ont besoin de notre soutien, de notre encouragement, de notre tranquillité pour retrouver eux-mêmes le calme. Que la paix soit avec eux. Que la paix soit avec nos enfants qui voient passer devant leurs yeux les pires exactions, qui entendent des discours de haine, qui voient tous ces adultes qui se croient très grands et qui se comparent aux plus mesquins. Que nous revenions à ce calme et à cette tranquillité pour leur apprendre qu'il est possible de vivre en paix et que la parole qui nous a été confiée est le bien le plus précieux que nous ayons pour que notre humanité soit réellement humaine. Que la paix soit avec nos enfants et que nous construisions un monde pour eux qui ne soit pas un monde d'opprobre, d'invective et de violence. Que la paix soit dans nos paroles, dans nos discours, dans nos rencontres et que nous soyons ainsi l'image vivante de cette parole créatrice que nous avons reçue et qui a fait vivre des générations et des générations d'hommes et de femmes et d'enfants avant nous. Et ensemble, comme un enfant rassasié, tranquille et silencieux, nous pouvons prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous avons partagé cette halte à l'écoute d'une parole qui se chantait sur les degrés du Temple de Jérusalem. Soyons porteurs de paix, marchons toujours vers ce sanctuaire merveilleux qui nous attend et où nous savons que nous sommes entendus, respectés et aimés. Que cet amour-là, vous alliez le donner à toutes celles et ceux qui en ont besoin dans ce monde. Nous sommes porteurs de cette parole, nous en avons la responsabilité et nous pouvons la donner de façon confiante. Recevons la bénédiction de Dieu. L'Éternel vous bénit et vous garde dans son amour et dans sa paix. Amen.